Voilà un passage apocalyptique très, quand même très mystérieux ce matin quand on essaie de chercher à quoi exactement peut faire référence ou peuvent faire référence ces deux chandeliers, ces deux oliviers, ces, voilà. Bien, en fait, il y a en tout cas un symbole qui est assez clair et assez évident. C'est que ces témoins, qui signifie martyr en grec, figurent l'évangélisation du monde. Tous ceux qui ont ces charismes de montrer au monde le royaume de Dieu par leur vie, par leurs actions, par le don de leur vie. Parfois de faire des miracles que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas. Voilà. Et au fond, eh bien, il est question de combat, de guerre, de mort. Ils font subir au monde des choses terribles parce que c'est pas l'esprit du monde, quoi, tout simplement. Que c'est l'esprit de Dieu et que c'est dérangeant. Oui, c'est dérangeant. Le pape, dans sa dernière encyclique, évoque la jalousie de je ne sais plus quel empereur romain qui persécutait les chrétiens, les premiers chrétiens, et qui apprenait que, en fait, les chrétiens étaient très aimés parce qu'ils recueillaient les pauvres, ils s'en occupaient avec beaucoup d'attention et comme le Christ, quoi. Alors du coup, il se dit, je vais faire. Ça va pas du tout. Les Romains doivent être un peuple exemplaire, et je vais donc instituer des maisons, lancer des institutions pour que nous puissions accueillir les pauvres et que nous soyons aimés par toute la terre. Donc il a instauré ça, et en fait, ça n'a pas marché, quoi, parce que c'est pas une ça intéressait pas les gens d'aider. De donner de l'argent pour qu'on puisse prendre en charge, ça n'intéressait personne. Et les pauvres même n'étaient pas. Enfin voilà, c'était un numerus clausus, quoi. Il n'y avait pas cet amour, cette charité. Vous comprenez, entre une mère Teresa qui reçoit des pauvres dans la rue, mourant, le dos couvert de verre, enfin que sais-je, et un institut légal qui pourra jamais être que légal, quoi. Et donc qui ne peut pas sortir de son cadre, qui ne peut pas sortir de ses heures d'ouverture, qui ne peut pas sortir de son financement, de que sais-je. Vous savez peut-être qu'en Inde, beaucoup de collèges, d'écoles, d'hôpitaux sont confiés à des religieux chrétiens. Ben parce qu'on sait que l'argent ne les intéresse pas. Bon, il peut y avoir des drames, hein. Surtout ailleurs qu'en Inde, du reste, mais bon. Mais voilà. Donc tout ça pour dire que ces témoins annoncent Jésus, continuent d'être appelés. Et alors on est un peu déçu à la fin de la lecture de l'Apocalypse parce que on apprend que ils sont morts et que tout le monde est content, quoi. Oui, 3 jours et demi. Voilà. Troisième jour, il ressuscitera. En fait, c'est un écho au maître, à Jésus. Tous ces témoins dont nous sommes, hein, on n'est pas obligé d'être canonisé pour être un témoin, hein, je vous rappelle, dont nous pouvons être. Et dont nous devons être, bien passe par le même chemin que Jésus. Il y a la mort, l'oubli, on peut être massacré, on peut être torturé comme Jésus, on peut. Voilà, autrement dit, on ne doit pas être étonné Quelles sont les périodes les plus fécondes de l'Église? Est-ce que c'est pendant la Révolution française? Est-ce que c'est pendant le soviétisme? Est-ce que c'est sous l'islam dans certains pays? C'est peut-être ce qui nous attend du reste. On va supposer que ça nous attend, donc que ce ne soit pas déjà commencé. Mais voilà, vous voyez, on est. Nous dérangeons, nous dérangerons toujours. Et parce que Jésus est venu déranger. Pensez au frère Karamazov, là, le grand inquisiteur, quand Jésus revient. C'est une fable, enfin une imagination. Et donc Jésus revient et il y a une femme dont on amène le fils à l'église pour l'enterrement. Et il arrive, il fait arrêter les porteurs, il lui dit, Ital, ita cum. Il se lève, etc. Tous les gens se disent, mais c'est lui, c'est pas possible. À ce moment-là, le grand inquisiteur arrive et le fait mettre aux arrêts. Et il lui dit, il va le voir en prison et il lui dit, pourquoi es-tu revenu nous déranger? Nous avions tout arrangé dans notre religion, ça marchait au poil. Pourquoi tu viens nous déranger? Et aussitôt il dit, ne réponds pas, de toute façon tu ne peux rien dire, puisque tu as déjà tout dit dans l'évangile. C'est très impressionnant quand même, ça, vous voyez. Bon, voilà. Pourquoi es-tu revenu? Ben, nous revenons, ils reviennent. Jésus revient par ses témoins. Et alors dans l'évangile, ça nous dit un peu la suite. L'évangile nous dit un peu la suite. Il y a cette histoire rocambolesque, là, absolument incroyable. Elle est sacrément pas mal, celle-là, quand même, hein, des Sadducéens avec l'histoire de leurs sept frères. Là. Et puis ça y va, hein, le premier, puis le deuxième, puis le troisième, gna 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 gna, bon. Et alors 7, c'est quand même un chiffre humainement parfait. Le chiffre absolument parfait, c'est 8. Et 7, c'est, vous voyez, le septième jour, c'est pas le huitième, merci. Le huitième, c'est la résurrection. C'est devenu le dimanche et le premier jour de la semaine, comme chacun le sait, hein. Il y a encore d'ailleurs sur les agendas électroniques la possibilité d'expliquer que le premier jour de la semaine c'est le dimanche. Ben oui, c'est le jour de la résurrection. Hein. Le lundi qu'on appelle en latin la feria secunda, c'est le deuxième jour. Hein. Bon, donc ça les chrétiens au moins peuvent se battre là-dessus parce que c'est important de mettre les choses dans l'ordre. Et en fait, Jésus dit, mais vous n'avez pas compris, c'est pas une vie terrestre. Après la mort, c'est pas un paradis islamique, c'est pas on ne revit pas comme avant. Donc Jésus essaie de leur dire ça, et là on le voit bien dans l'Apocalypse, hein, ils sont élevés dans les cieux, ils ne reprennent pas une vie comme si ils n'avaient pas été coupés en morceaux, quoi. Et en fait Jésus va citer Moïse parce que les Sadducéens ont cité Moïse. Et leur dit, ok, oui, bien sûr, Moïse a dit ça. Mais Moïse a dit ça pour cette terre. Et il a dit autre chose pour la vie éternelle. Alors c'est ce qu'il dit dans l'évangile. Il dit, ben voilà, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Donc si c'était des morts, si ces gens-là n'avaient aucun intérêt, on ne les citerait pas. Vous voyez, on ne dit pas c'est un peu comme quand on dit cet immeuble, cette construction est une construction de tel architecte, par exemple. Ça veut dire que cet architecte demeure vivant dans notre esprit au moins. Au-delà de toute religion, j'entends, hein, il demeure présent dans un esprit. On va dire Louis XVI, il demeure présent dans l'esprit. On voit bien de qui il s'agit. De Gaulle, on voit bien de qui il s'agit. Qu'on apprécie ou pas, ça change rien. Voilà, enfin, il y a des gens, Staline, on voit bien de qui il s'agit, voyez. Bon. Donc il y a une présence dans l'esprit. Ben, là, finalement, Moïse, ce que dit Jésus, c'est quand Moïse les a cités, c'était pas comme des reliques, c'était comme des gens vivants. Le Dieu vivant ne peut être que le Dieu des vivants, quoi, pas des morts. Bon, ça reste assez mystérieux, cette parole d'évangile, hein. Il y a une lumière à faire là-dessus. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Parce que Dieu est le Dieu des vivants, donc Isaac, Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Vous voyez, il faut bien comprendre qu'on n'est pas vivant par soi-même. Dieu nous a créés, alors éternels au sens où on n'a pas de fin. Même en enfer, les âmes qui s'y trouveraient, qui s'y trouveront, que sais-je, on ne sait pas, hein, y seront éternellement. Donc ça s'arrête jamais, en fait, hein. La vie terrestre s'arrête, mais l'âme demeure vivante. Une âme ne peut pas être détruite une fois qu'elle est créée. Voilà, donc ça nous fait un peu penser à l'idée de tout ça, je pense, hein, c'est vraiment de réfléchir un peu à la vie éternelle. Hein. On a eu ça toute cette semaine avec voilà, la semaine qui vient, ça va être un peu pareil. On va y penser. On va penser aussi un peu aux âmes du purgatoire, je pense, avec les lectures, les derniers temps. Et au fond, j'insiste un peu là-dessus parce que les âmes du purgatoire nous sont très très proches finalement. Une âme qui est au purgatoire est une âme qui, bon, elle a pas d'inquiétude, elle est sauvée. Hein. Elle n'a pas d'examen à passer. Mais elle n'y est pas encore et elle souffre de ne pas y être. Et au fond, ça nous parle un peu de nous. Si nous avons un peu d'amour de Dieu, si nous avons un peu fait l'expérience des limites terrestres, nous pouvons éprouver une sorte de souffrance, de manque de joie, de béatitude, de se dire, mais quand même, dans la vie éternelle, on pourra retrouver ces gens qu'on aimait, avec qui on parlait. Bon, en espérant qu'ils soient sauvés, enfin qu'ils aient fait les bons choix. Et en fait, dans le purgatoire, il y a quoi? Ben, il y a des gens comme nous qui ont juste fait un peu trop souvent le mauvais choix, ou qui n'ont pas fait assez souvent le bon choix. Et je crois qu'on se reconnaît, quoi. Et on se dit, bon, pourvu que je fasse assez souvent le bon choix pour que Dieu puisse m'élever à sa vision. Sinon, Dieu ne peut pas nous élever immédiatement à sa vision. Et nous l'en empêchons parce que nous ne sommes pas suffisamment préparés. Alors ça peut faire lire les épreuves de chacun. Peut-être parfois on gagne aussi le ciel d'autres personnes, hein, parce qu'il y a vraiment des souffrances terribles. Hein. Donc voilà. Ça reste un mystère, mais il faut toujours avoir cette bougie, cette flamme de la vie éternelle. Sinon, c'est désespérant. Ça peut être désespérant, en tout cas. Voilà. Donc, il y a bien une vie, mais c'est une vie céleste. Hein. Voilà, n'y a pas de mariage au ciel. Il n'y a pas de mariage parce que il n'y a pas besoin. Pas besoin puisqu'il n'y a plus de mort. Donc, s'il n'y a plus de mort, il n'y a plus besoin de renouveler. Et tout le monde se retrouve définitivement avec des quantités. Bon, voilà. Alors, quelle sera la vie céleste? Je crois que c'est la petite Thérèse qui dit quand on croisera quelqu'un, on verra aussitôt tout ce qu'il a fait. Alors, on a ça on a de la science-fiction un peu comme ça aujourd'hui dans des séries télévisées où. On sait tout ce que les gens ont fait, etc. Bon, sauf que c'est pas orienté de la même manière. Voilà. Et, mais là, on saura la gloire qu'ils ont, on verra comment ils brillent, enfin, on n'a pas idée parce qu'on n'a que des pensées humaines, terrestres. Mais voilà, cette merveille de la vie éternelle, où nous retrouvons les gens que nous avons aimés. Et que nous connaissons aujourd'hui peut-être complètement décati parce qu'ils sont trop âgés, parce qu'ils n'y arrivent plus, parce que. Et on peut avoir leurs souvenirs d'il y a 30 ans et de se dire, voilà, un jour je vais revoir cette personne avec cette joie qu'il y avait sur son visage. Enfin, je l'espère en tout cas. Voilà, donc méditons un peu ça et puis n'ayons pas peur de ces épreuves qui sont le signe qu'on est sur le bon chemin. Hein. Soit dit en passant, faut pas les chercher. mais elles sont inévitables. Jésus n'a pas voulu les éviter. Suivons-le.